Vous écoutez France Culture.
Le journal présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au texte du Brexit, les 27 ajoutent une déclaration politique qui esquisse les contours d'une nouvelle relation avec le Royaume-Uni. Nous serons en ligne dans un instant de Bruxelles avec Quentin Dickinson. Yanis Varoufakis choisit ce jour de rupture pour lancer sa campagne en vue des européennes. L'ancien ministre des Finances grec compte être candidat en Allemagne. Des cas de suffocation par dizaines après des bombardements sur des quartiers résidentiels d'Alep en Syrie. Nous appellerons Aurélien Colli à Beyrouth. Les marines russes et ukrainiennes se crient des noms dans le détroit de Kerch en Crimée. Trois bâtiments de guerre ukrainiens auraient croisé dans des eaux internationales revendiquées par Moscou. Et puis en France, cet appel à la manifestation du syndicat étudiant l'UNEF contre la hausse des frais d'inscription bientôt appliqués aux étudiants extra-européens. Précision de Mathilde Mélin à la fin de cette édition. La face cachée du Globe signée Nabila Hamel. Theresa May, la première ministre britannique, est actuellement reçue par les 27 signataires d'un historique traité de retrait. C'est une tragédie, lancée en début de matinée le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui s'empressait d'ajouter que l'accord désormais scellé était, je cite, « le meilleur compromis possible ». Bonjour Quentin Dickinson.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Quentin, 17 mois, c'est fait et l'Europe va faire sa refondation ?
Oui, la refondation. Mais qu'est-ce que c'est que la refondation ? Cette notion est pour l'heure relativement floue ici. Elle vise d'abord évidemment la gouvernance et les garanties de la zone euro, mais elle couvre aussi les aspects institutionnels liés par exemple aux élections européennes, à l'élargissement au domaine de la défense et de la sécurité, ainsi que dans le monde des structures, la défense dans le monde des structures du multilatéralisme, dont l'Union européenne devient désormais le champion. La complexité des dossiers liée à l'extrême difficulté d'imprimer simultanément le mouvement à 27 pays différents confine la réalisation de cette ambition dans le temps long.
L'accord, Quentin, doit maintenant recevoir l'aval de la Chambre des communes et rien ne dit à l'heure qu'il est que Theresa May arrivera à ses fins. Quentin, quels obstacles et quelles incertitudes avant l'application de ce Brexit dit soft ?
Voyons d'abord l'accord. Il a été arraché entre négociateurs d'abord. Il a été paraphé il y a à peine une heure par les chefs d'État et de gouvernement des 27, que Theresa May a ensuite rejoint afin d'apporter la dernière signature nécessaire à la validation des deux textes qui encadrent le Brexit, l'acte de divorce, déjà rédigé en mode juridique, et la déclaration politique et ses annexes, qui n'est que le canevas d'une autre négociation, celle qui devra déboucher sur un traité euro-britannique, peut-être sous forme d'une convention d'association économique assortie d'un partenariat dans le domaine de la sécurité et de la défense. Ce nouveau cycle de pourparlers se déroulera au cours de la période de transition de 21 mois qui suivra le départ des Britanniques le 29 mars de l'année prochaine. Voilà pour la théorie, dans le cas de figure où tout irait pour le mieux. Car il ne faut cependant pas s'imaginer que désormais, l'on vogue gaillardement vers le Brexit sans plus s'attendre à quelques difficultés que ce soit. Au contraire, dans 15 jours, vous le disiez, la chambre basse du Parlement britannique doit débattre et voter sur cet accord et au moment où nous parlons, Theresa May ne dispose clairement pas de la majorité nécessaire pour entériner le contenu des textes adoptés ici ce matin. En cas de rejet par les députés britanniques, eh bien l'Union européenne serait confrontée à une situation inédite qu'aucun texte ne prévoit et le Royaume-Uni, lui, ferait un saut de plus dans l'inconnu.
Merci à vous, Quentin Dickinson, en direct de Bruxelles avec Gilles Gallinaro. Refonder l'Europe en profondeur, ce serait le marqueur de la campagne pour les élections européennes de mars prochain. C'est le chef de l'État français qui le martèle ce matin. Et quel autre lieu de référence que l'Allemagne pour parler construction européenne ? C'est la raison pour laquelle l'ancien ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis, se lance aujourd'hui à Berlin à la tête d'un mouvement intitulé Diem 2025, Démocratie en Europe 2025. David Philippot, Yanis Varoufakis s'affiche et s'avance en rempart contre les populismes à la hausse en Europe.
Yanis Varoufakis n'a pas encore expliqué les raisons qui le poussent à diriger la liste en Allemagne. Il doit s'exprimer à l'occasion de son élection cet après-midi. En tant que citoyen de l'Union européenne, le Grec a le droit d'être candidat partout en Europe, mais à une condition, d'avoir sa résidence principale dans le pays en question. En tout cas, sa désignation de numéro 1 sur la liste ne souffre d'aucun doute. 82% des adhérents de ce mouvement ont déjà plébiscité sa candidature à la candidature. Son programme est également connu. Pour remédier aux maux de l'Europe, l'ancien ministre des Finances veut engager un gigantesque plan d'investissement, 500 milliards d'euros par an, pour le financement de projets écologiques et numériques. L'ennemi juré des banques veut obliger les lobbyistes à s'immatriculer à Bruxelles et donner au Parlement européen le pouvoir d'édicter des lois, l'Europe qu'il veut réformer de l'intérieur pour garantir sa survie démocratique. Pour lui, il est entendu que ce sont les politiques d'austérité qui ont provoqué l'émergence des Salvini, Orban et Le Pen. Il se présente comme l'alternative au péril nationaliste et son combat dépasse les frontières du continent. Yanis Varoufakis tente également de monter une alliance internationale en compagnie du Brésilien Fernando Haddad et de l'Américain Bernie Sanders.
David Filippo à Berlin. En Syrie, une nouvelle fois de lourds soupçons pèsent sur des belligérants qui auraient fait usage de gaz toxique, de chlore, lors de bombardements visant des zones résidentielles de la ville d'Alep. L'information émane à la fois de l'agence officielle du régime et de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Nous sommes en ligne de Beyrouth avec Aurélien Colli. Bonjour Aurélien.
Bonjour Mathieu.
De quelles informations disposez-vous ?
Alors il y aura une centaine de blessés selon le régime syrien dans ces tirs de mortier qui ont eu lieu hier soir sur des quartiers du nord-ouest d'Alep. Alep, ville sous contrôle du régime depuis 2016, à l'exception de secteurs de la périphérie ouest qui sont tenus eux par des groupes rebelles. D'après Damas et Moscou, les tirs viendraient justement de ces secteurs, théoriquement démilitarisés dans le cadre de l'accord entre Russie et Turquie qui a instauré fin octobre un cessez-le-feu autour de la province d'Idlib, voisine d'Alep. Les autorités syriennes et russes attribuent ces tirs d'obus contenant du chlore à l'Alliance islamique Tahrir al-Sham, qui est issue de la branche syrienne d'Al-Qaïda. Elle contrôle effectivement deux tiers de la province d'Idlib, mais en principe pas les secteurs proches d'Alep qui sont aux mains du Front National de Libération. C'est l'autre alliance rebelle, dite modérée, soutenue elle par Ankara. Elle a accepté le cessez-le-feu et ce matin, elle dément son implication dans cette attaque. Sur Twitter, le chef d'une des composantes de cette alliance qualifie même l'attaque de mensonge orchestré par Damas pour faire capoter l'accord russo-turc sur Idlib. À l'heure actuelle, c'est difficile de démêler le vrai du faux. Le ministère russe de la Défense indique qu'il a informé la Turquie des circonstances de cette attaque en rappelant qu'elle est garante du respect du cessez-le-feu dans cette zone. Et puis des raids aériens viennent de viser ce matin les faubourgs ouest d'Alep, d'où serait justement partie l'attaque chimique selon Moscou et Damas. Des bombardements sans précédent depuis l'accord russo-turc selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Merci à vous Aurélien Colli à Beyrouth. Le ministère russe de la Défense a une autre urgence. Le détroit de Kerch en Crimée, où ce matin ont été localisés 3 navires de guerre ukrainiens. C'est une correspondance de Moscou de Léo Vidal.
Escalade verbale au large de la Crimée, alors que les gardes-frontières russes affirment que 3 navires militaires ukrainiens ont pénétré illégalement dans leurs eaux territoriales près du port de Kerch. Ils effectuent des manœuvres dangereuses et n'obéissent pas aux instructions des autorités. L'état-major de la marine ukrainienne affirme de son côté respecter scrupuleusement le droit international. En toile de fond, c'est la question du statut du détroit de Kerch qui sépare la mer Noire de la mer d'Azov. Avant l'annexion de la Crimée par la Russie, c'était un détroit international. Depuis que la Russie occupe la péninsule, elle contrôle de facto ses deux rives, et pour Moscou, il est donc entièrement russe. L'Ukraine, évidemment, ne le reconnaît pas. Cela crée des tensions, la Russie revendique sa souveraineté, et l'Ukraine en appelle à la liberté de navigation dans les eaux internationales. Aujourd'hui, la marine ukrainienne accuse les gardes-côtes russes d'avoir éperonné un des 3 navires en lui causant des dommages importants, mais elle assure que son escadre continue d'avancer vers sa destination.
Retour à une de ces complexes problématiques européennes, le syndicat étudiant UNEF et 14 associations d'étudiants étrangers ont signé une tribune sur le site du journal du dimanche pour demander l'abandon de la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers non européens, une mesure annoncée en début de semaine par le Premier ministre Édouard Philippe. Bonjour Mathilde Mélin.
Bonjour.
Mathilde, quelle tonalité pour cette tribune ?
Indignée, c'est le terme. Elle attaque les arguments du gouvernement pour justifier la multiplication par 10, voire par 15 des frais d'inscription pour les étudiants non communautaires. Il faut rappeler qu'ils sont 320 000 étudiants étrangers dans les universités françaises et la tribune explique qu'ils sont déjà handicapés par des lourdeurs administratives et pédagogiques. Pour les co-signataires, le but de cette réforme n'est pas de rétablir une justice entre les étudiants français dont les études sont financées par les impôts de leurs parents et les étudiants étrangers pour qui ce n'est pas le cas, mais bel et bien d'instaurer une sélection à l'argent. Augmenter les frais favoriserait les élites, éloignerait les étudiants issus de familles modestes et ça précariserait encore plus les étrangers. Et même si le gouvernement promet d'investir dans les bourses que peuvent toucher les étudiants étrangers, ça ne suffirait pas. En tout cas, c'est ce que disent les associations étudiantes. La tribune ne fait pas que contester cette mesure, elle demande aussi des choses au gouvernement, comme la gratuité du titre de séjour pour les étrangers, par exemple. Elle lance aussi un appel à manifester le 1er décembre, place du Panthéon à Paris et dans plusieurs autres villes de France.
Merci à vous, Mathilde Mélin. Il est presque 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du Globe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour. Bonjour Mathieu. L'image d'un Massoud Barzani reçu jeudi par le premier ministre irakien Adel Abdelmahdi confirme un dégel effectif entre Erbil et Bagdad. Le vieux leader kurde a été l'artisan du référendum de sécession du Kurdistan il y a 2 ans. Projet qui s'est terminé en fiasco lorsque l'Irak a imposé à cette région du Nord un blocus frontalier et une vague de sanctions économiques. Aujourd'hui, beaucoup de questions ont été réglées, mais il reste l'épineux dossier de la répartition des revenus pétroliers entre Bagdad et le Kurdistan irakien. La Maison-Blanche, qualifiée d'agence de relations publiques pour le prince héritier saoudien, ce sont les propos d'un républicain et pas des moindres, Bob Corker, président de la toute-puissante commission des affaires étrangères du Sénat, réagissait au communiqué de Donald Trump qui, à propos de l'assassinat du journaliste saoudien Khashoggi, se disait mardi décidé à préserver les contrats et les bonnes relations avec Riyad. Des élus de la Chambre des représentants veulent enquêter sur l'attitude du président américain dans cette affaire. L'OMC a accepté de trancher le différend commercial sur les droits de douane imposés par les États-Unis à plusieurs pays, dont l'Union européenne, la Chine et la Russie, sur leurs importations d'acier et d'aluminium. L'Organisation mondiale du commerce devra aussi se prononcer sur la légalité des mesures de représailles prises par ces pays à l'encontre des produits américains. Les décisions pourraient prendre au moins 1 an et être susceptibles d'appel. Pour la première visite en 32 ans d'un dirigeant espagnol à Cuba, Pedro Sanchez promet de continuer à encourager les investissements dans l'île, la Havane, qui ressent les répercussions de la débâcle du Venezuela, son principal partenaire et fournisseur de pétrole, et dont le retour de milliers de médecins installés au Brésil représentera une perte de 400 millions de dollars par an, reçoit ce regain d'intérêt de Madrid comme une bouffée d'oxygène. L'Espagne est le 3e partenaire de Cuba, après la Chine et le Venezuela, et son premier partenaire européen, avec une part de marché de 40%. Cette visite du chef du gouvernement espagnol sera suivie par celle du couple royal en novembre 2019 à l'occasion des 500 ans de la Havane. Un Moyen-Orient sur une poudrière, la guerre en Syrie qui s'éternise, le désastre humanitaire de la guerre au Yémen, l'instabilité en Libye et en Irak, deux pays qui peinent à se reconstruire, l'Iran sous sanctions, ces dossiers chauds ont relégué au bas de la liste des priorités internationales la question palestinienne, comme le constate un notable palestinien au micro de Nadine Epstein.
Après 8 mois de violence à la frontière de Gaza et d'Israël et son nombre toujours plus élevé de morts et de blessés, Hamas et Israël ont convenu via l'Égypte d'un cessez-le-feu. Un accord fragile, d'autant que le Conseil de sécurité de l'ONU a échoué à voter une résolution sur cette situation. Un calme relatif et sourd qui peut se rompre à tout moment, c'est d'ailleurs ce à quoi s'attend Mounib Al-Masri, figure notable palestinienne de Naplouse, homme d'affaires respecté, très engagé dans la politique pour défendre la création d'un État palestinien.
We are facing, I feel, there is a war coming. Israel is trying to create a war.
Nous faisons face, je sens, à une prochaine guerre. Ce climat vient de l'attitude des Israéliens. Les gens de Gaza leur ont vraiment infligé un sacré contre-coup. Cela confirme que les Israéliens n'utilisent et ne comprennent que la force. Depuis les accords d'Oslo et le protocole de Paris, ils n'ont jamais tenu aucune de leurs obligations. Aussi, nous recherchons quelqu'un qui ose leur dire franchement « stop », quelqu'un qui initie un contre-projet aux Américains, car les Israéliens n'ont plus peur de personne depuis que l'Amérique s'est totalement rangée à leur côté. Donc les Palestiniens demandent à l'Europe, à la Russie, à la Chine d'intervenir pour dire aux Israéliens « n'attendons pas qu'il y ait une guerre, venez vous asseoir et dites-nous ce que vous voulez ». Ce qui est sûr, c'est que le gâteau doit être partagé, alors discutons et voyons comment nous pouvons vivre ensemble. Aujourd'hui, ils sont 6 millions, il y a aussi 6 millions de Palestiniens en Palestine et 7 millions en diaspora. Alors, la solution des deux États est pour l'heure la seule réponse et elle se trouve dans le plan de paix arabe de 2002. 57 États musulmans accepteront l'État d'Israël s'il reconnaît l'État de Palestine.
Malgré les déceptions, les insuccès ou les échecs, malgré le temps qui passe sans qu'il ne voit grand-chose avancer, Mounib Al-Masri, octogénaire, garde l'énergie et la certitude de croire qu'un État palestinien sera créé de son vivant.
Trop grasse, trop sucrée, trop salée. Les offrandes aux moines bouddhistes thaïlandais sont loin de ressembler à l'ancienne au bol de riz. Désormais, ce sont des paniers de chips, de gâteaux industriels et de boissons énergétiques qu'ils reçoivent. Comme beaucoup d'autres Thaïlandais, ils n'échappent pas au problème d'obésité, ce qui a poussé les autorités à publier une charte de la santé des moines et à promouvoir des initiations à la diététique dans les monastères. À dimanche prochain.
Merci à vous, à dimanche prochain. Nabil Hamel, de la pluie sur la France métropolitaine avec des rafales de vent dans la vallée du Rhône et la Corse. Cette édition a été préparée avec Benjamin Ducy à la technique, Anthony Thomasson.